Bonjour, bienvenue dans notre émission Culture L. Aujourd'hui, pour cette émission, nous sommes avec Noé, Adèle, Ghislain, Elena, Clémence et moi-même Lily Rose. Nous allons donner tout de suite la parole à Clémence qui va nous parler des incendies en Australie.
Donc oui, aujourd'hui je voudrais parler des importants incendies qui attaquent toujours l'Australie. Donc ces feux se déroulent depuis de nombreuses semaines déjà et sont devenus de plus en plus conséquents depuis octobre dernier. Mais ils ne se stoppent toujours pas. Le plus haut pic de température en Australie a été relevé ces derniers jours en dépassant les 40 degrés ce samedi d'après BFM TV. Le feu a déjà envahi environ 5 millions d'hectares et détruit environ 2500 bâtiments. Par rapport aux espèces humaines, près d'un demi-milliard d'animaux auraient trouvé la mort dans ces incendies, sans compter les espèces des insectes. Par rapport aux habitants, environ 100 000 personnes vont devoir évacuer leur domicile. Le pays a aussi fait appel à des réservistes de l'armée à cause des 130 feux qui dominent toujours l'Australie. Ainsi, des images et vidéos chocs sont postées sur différents réseaux sociaux pour alerter le monde et faire des appels aux dons. Par ailleurs, une influenceuse américaine échange des photos d'elle dénudée en échange de preuves de dons afin de venir en aide au pays en détresse. Grâce à cela, elle a réussi à récolter plus de 700 000 $ en moins de quelques jours. Donc, par rapport à vous, qu'est-ce que vous pensez de ces incendies qui dévastent plusieurs territoires, malheureusement pas que l'Australie ces derniers temps ?
Bah, ça commence à faire beaucoup et je pense qu'il faudrait commencer à s'inquiéter un peu plus au niveau du réchauffement climatique, tout ça. Par exemple, Trump, il a refusé les accords avec Paris il y a pas longtemps, enfin il y a l'année dernière, je crois. Et je trouve que c'est bien les actions comme l'influenceuse américaine là, de profiter un peu de sa popularité et de sa visibilité pour aider pour des bonnes causes comme ça.
Mais justement, vous trouvez pas ça dommage que ce soit une influenceuse qui doit être qui doit faire ça et non pas les médias plus courants?
Oui, les médias, ils en ont pas parlé tout de suite. On n'est pas vraiment au courant de la gravité de la situation et il n'y a pas assez d'appels à l'aide, je pense. Enfin...
Oui, c'est vrai, mais quand même depuis quelques années, je trouve, on est quand même plus au courant et attentif. Au point de vue écologique, par exemple, au lycée, il y a eu des journées. Pour parler de l'écologie, tout ça, alors qu'il n'y avait peut-être pas ça avant.
Après, ce que je trouve dommage aussi, c'est le fait que les médias, ils l'aient relayé assez tard. Par exemple, moi, ça faisait déjà une semaine que j'avais vu ça sur les réseaux sociaux, et quand c'est apparu aux infos, ça faisait déjà un bout de temps que les feux, ils s'étaient propagés.
Bah oui, surtout que les feux, il y a une période plus propice à ça en Australie à partir du mois d'août, mais là, justement, on devrait être encore plus informé vu que c'est pas courant, donc
oui, surtout en hiver.
Voilà.
Ensuite, Adèle, tu vas nous parler du premier contraceptif masculin.
Oui, en effet, le premier contraceptif féminin a été commercialisé en 1956 en Allemagne. Plus de 60 ans après l'arrivée de ce dernier, en 2020, un premier contraceptif chimique masculin sera mis en vente sur les marchés indiens puis internationaux. En effet, depuis un certain nombre d'années maintenant, des chercheurs indiens perfectionnent ce produit. Pour eux, c'est un véritable enjeu démographique et social. Le contraceptif se présente sous la forme d'injections dans les canaux déférents, près des testicules. Ce qu'elle permet, elle empêche tout simplement la production de sperme durant une période de 13 ans environ. Cependant, son effet serait réversible, une autre piqûre permettrait d'effacer les effets inhibants de la première. Le docteur Sharma, un scientifique membre du Conseil indien de la recherche médicale, affirme au Hindustan Times que les essais sont terminés, y compris les essais cliniques de phase 3, menés sur 303 participants, avec un taux de réussite de 97,3% et aucun effet secondaire constaté. Un contraceptif sans effet secondaire, c'est super, mais un produit qui agit correctement n'a-t-il pas toujours des effets secondaires ? Dans tous les cas, ce produit peut être considéré comme le premier contraceptif chimique masculin au monde. C'est une avancée révolutionnaire pour nombre d'entre nous. Et vous, qu'en pensez-vous ?
Je trouve que c'est pas mal et tout, et le fait que ce soit pas que la femme qui prenne des contraceptifs, c'est une avancée. Mais c'est vrai que ça fait un peu peur, enfin, le fait de s'injecter des produits chimiques dans le corps, enfin. Moi j'aurais peur d'y retomber.
Oui, et surtout qu'ils disent qu'il n'y a aucun effet secondaire, mais on ne sait pas réellement, ça se trouve, il y en aura et ça fera.
Ouais, plus tard.
S'injecter des produits chimiques dans le corps, c'est aussi ce que fait finalement l'homme, enfin la femme quand elle prend une pilule. Alors c'est pas une injection par une seringue, oui. Mais.
Ouais.
C'est du produit chimique tout autant.
Oui, mais là du coup, justement, on sait qu'il y a des effets secondaires.
Mais au moins c'est réversible. Enfin, la piqûre.
Ouais, mais ça fait moins peur, je trouve, de prendre une pilule que d'aller se faire une piqûre. Enfin, je sais pas.
En fait, le fait de dire injecter, ouais. Ça fait très science-fiction.
Ouais, c'est moins injection qui fait peur. Et toi, Ghislain, du coup, ton opinion sur là-dessus?
Après, filles, bien, pourquoi pas, mais faut être sûr, parce que déjà, pour les pilules, il y a des effets secondaires chez certaines filles qui sont pas toujours.
C'est pas toujours les mêmes.
Oui, voilà, ça dépend de la personne. Ça, enfin, là, 97,3%, c'est ça. Je pense que c'est sur une personne, mais je pense qu'il y a plusieurs hommes différents, enfin plusieurs cas différents.
Non, c'est sur 303 participants, ils ont mené.
Oui, mais le 304e, il doit avoir une différence par rapport aux autres. Enfin,
c'est valable pour les femmes aussi, ça, finalement, cette question.
Oui, mais dans ce cas-là, faut pousser les recherches des deux côtés. Mais non, je suis pas contre.
On verra quand ce sera commercialisé.
Oui, pourquoi pas.
Maintenant, Noé va nous expliquer la calculatrice en mode examen.
Comme de nombreux lycéens de terminale, vous avez probablement entendu parler du mode examen présent sur les calculatrices. En effet, à compter de la session 2020, les élèves passant le bac, le brevet, ainsi que le BEP et autres examens scolaires devront activer le mode examen, ce qui ne pourra pas leur permettre d'accéder à la mémoire de leur calculatrice. L'information est tombée fin novembre et a embarrassé de nombreux élèves qui enregistraient des formules dans la mémoire de leur calculatrice. C'est plutôt contraignant, mais la calculatrice est réintroduite lorsqu'auparavant elle était interdite. Par exemple, l'an dernier, pendant le bac d'SVT, elle n'était pas autorisée. Alors là, elle sera probablement autorisée, mais du coup en mode examen. Et ça peut aussi empêcher les antisèches qui se trouvaient dans les programmes.
En soi, c'est bénéfique. Ça permet de mieux apprendre, pas de se reposer sur ses lauriers, quoi.
Ça se voit que tu fais pas maths.
Oui, non, moi ça me concerne pas, donc.
Non, mais il y a aussi une calculatrice mode examen pour le brevet.
Oui, pour tous les examens scolaires.
C'est-à-dire que parce que là, sur la calculatrice mode examen qu'on avait au collège,
il y avait pas
de mode examen.
On pouvait pas rentrer des formules.
Les calculatrices avec des mémoires. Celle qu'on a là, on peut mettre une mémoire, mais
celle qu'on avait
au collège, par exemple, on peut l'utiliser.
Okay.
Ensuite, Elena, tu nous parleras d'un romancier.
Je vais vous présenter le romancier Donato Carissi, qui est aussi journaliste, dramaturge, réalisateur et scénariste italien. Il est né en 1973. Donc, au départ, il était juriste spécialisé en criminologie et sciences du comportement. Ensuite, il a laissé cette pratique de côté pour se tourner vers l'écriture en 1999, et notamment les romans policiers. Son premier roman policier s'appelle Le Shooter, et il met en scène l'enquêtrice Mila Vasquez. C'est un roman très sombre et parfois glauque qui remporte un grand succès et de nombreux prix, comme celui du prix SNCF du Polar Européen en 2011. Donato Carissi continue alors sa série de livres avec son héroïne Mila Vasquez. Et dernièrement, son dernier livre, Le jeu du chuchoteur, est paru en France en 2019. Et donc, je vous conseille fortement cette série de livres, car elle est très envoûtante et remplie de retournements de situation.
Il est né en quelle année ?
En 1973.
Et est-ce que vous connaissiez cet auteur ?
Non.
Il n'est pas très connu en France, c'est surtout en Italie. Et moi, je l'ai découvert en allant chez Thuard. J'avais fait un stage là-bas et du coup, pendant mes heures de pause, je regardais un peu les livres, les romans policiers, tout ça.
D'accord, nous passons maintenant à Ghislain avec un sujet sur la fourrure.
En effet, la fourrure est la peau de certains animaux garnie de son pelage. Elle désigne aussi le matériau transformé par l'homme destiné à la confection de vêtements, de parures ou bien d'accessoires et de décorations. Ces fourrures commercialisées proviennent le plus souvent de mammifères sauvages ou d'élevage. La fourrure proprement dite est obtenue par l'écorchage ou le dépecelage des animaux, puis les nettoyages et le tannage de leur peau. À l'origine, la fourrure sert avant tout à lutter contre le froid. Elle a été popularisée au XIXe siècle par les pionniers de la conquête de l'Ouest, tels que Davy Crockett, qui portait une toque en peau de raton laveur, mais aussi par les trappeurs canadiens ou russes sur la traditionnelle chapka. Au cours de l'histoire, la fourrure s'est progressivement chargée de symboles comme symbole de réussite sociale, d'élégance, d'animalité ou bien encore de sensualité. Au XXe siècle, la fourrure pénètre dans le secteur de la mode et contribue à la démocratisation dans le monde entier. Et maintenant, je demande votre avis. Pensez-vous que la fourrure a-t-elle encore sa place dans ce monde et surtout dans la mode ?
Je trouve ça un peu cruel quand même.
Bah oui, parce que bon, vu les actualités, vu ce qu'on défend aujourd'hui, les nouveaux centres d'intérêt, peut-être que c'était pas à jour aux années où la fourrure a commencé à être à la mode, donc je vois pas pourquoi ça reviendrait à la mode aujourd'hui.
Bah, surtout que, enfin, il y a la fausse fourrure aussi, et je trouve que c'est beaucoup plus. Enfin, parfois c'est plus beau et c'est plus respectable.
Oui, surtout que en plus, je pense que c'est beaucoup plus facile à entretenir et puis même pour des questions de
d'hygiène,
je sais pas. Enfin, d'éthique.
Et puis même d'éthique, oui.
Puis même, ça doit être beaucoup moins cher.
Ouais, je pense.
Ouais, bah oui, sûrement, oui.
Après, la fausse fourrure, c'est produit genre avec du pétrole.
Du coup. Bah alors, faut pas acheter de manteau en fourrure.
Voilà.
Faut vivre tout nu alors à ce moment-là.
Pourquoi pas.
Parce que d'accord, donc la fourrure, c'est quelque chose qui Enfin, vous en voyez dans votre entourage, des gens emporter de la fourrure ?
Oui, toujours un peu, mais je pense que c'est plus de la fausse maintenant.
Ouais. Ouais.
C'est bien légal en France, ça, de porter de la fourrure ?
Bah, la vraie, je sais pas.
Mais bah, je pense que c'est interdit, la vraie.
Ouais.
Il me semblait aussi, mais alors, à vérifier. Je ne sais pas si nous pouvons être sûrs de ça. Mais il me semble qu'en effet, il y a des lois qui interdisent ça à présent.
Oui, je crois.
Avec la protection des animaux et tout, ouais. Oui, je crois.
Oui, le droit animal. Enfin bon, après, je ne sais pas ce qu'il est en aide de la loi, précisément.
Ouais, surtout qu'il y a des nouvelles lois concernant les animaux qui sont apparues il y a quelques années.
Mais ça ne doit pas être dans le monde entier, puisque, par exemple, quand on voit à la télé, les artistes, tout ça, pendant les clips, bah, je pense que c'est de la vraie fourrure, un peu.
Bah après, ça dépend des pays. Puis il y a des pays moins développés, où pareil, au niveau de la loi, c'est aussi moins développé. Et le droit animal, c'est pas leur priorité.
Ah, petite question pour le débat. Est-ce que si, par exemple, vous avez récupéré une vieille fourrure dans le grenier de la maison, est-ce que vous iriez la porter quand même, puisque c'est pas vous qui avez tué l'animal? Ou est-ce que c'est définitivement condamnable?
Bah, moi, je pourrais pas. Enfin, je trouve ça un peu sale. Et puis, enfin, le fait d'avoir un animal mort sur soi, je trouve ça. Enfin, ouais, au niveau de l'éthique et de la morale. Non.
Ah bah, ouais, je suis totalement d'accord. Enfin, même si je la retrouve et que ce n'est pas moi qui l'ai tué ou acheté, j'adhère pas au concept, donc je vais pas la porter juste pour le plaisir.
Surtout que vous êtes végétarienne, alors ce serait bizarre que vous mangiez pas de viande mais que vous portiez de la fourrure. Non, mais oui, moi aussi je suis d'accord. Enfin, au niveau, enfin, les animaux. Ils ont pas autant de droits que nous, mais ils ont une vie. Du coup, je vois pas pourquoi ils finiraient sur nos manteaux.
En effet, mais par exemple, dans certains domaines, comme je sais pas, le domaine artistique, par exemple, si vous faites un film d'époque où certains groupes de musique portent des fourrures, est-ce que c'est acceptable puisque ça rentre dans un concept artistique ou non ?
Bah non, parce que enfin, il y a quand même la fausse fourrure qui existe et c'est parfois ça paraît assez réaliste et même dans un film, enfin, on peut retoucher certaines choses pour que ça paraisse plus réaliste. Donc il n'y a pas besoin de tuer des animaux juste pour que ça paraisse plus vrai.
Mais pour tout ce qui est porté par les stars, tout ça, je pense que c'est aussi le travail des grandes marques d'arrêter de produire ce genre de choses malgré peut-être les demandes de certains artistes.
Voilà pour aujourd'hui. Je remercie l'équipe de Fréquence CIE ainsi que Gabriel à la technique. Je vous rappelle que cette émission est diffusée le mardi à 16h30 et que vous pouvez la retrouver sur fréquenceciee.org. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Colorblind, and I've been so colorblind.
Yeah, hey, trips to the mall, I just tripped in the fall. I think I might really be the one after all.